Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être là pour vous apporter le message. Vous savez que prêcher n'est pas une gloire, c'est une responsabilité. Mais c'est toujours, en ce qui me concerne, un privilège et un plaisir de le faire devant vous. Alors, la dernière fois que je suis venu devant vous, j'ai parlé des 10 premiers versets du chapitre 2 d'Éphésiens. Et on avait vu que nous pouvions être émerveillé par la grâce. La fois d'avant, lorsque j'avais commencé cette série sur Éphésiens, dans le chapitre 1, on avait vu qu'on pouvait être émerveillé par la nouvelle identité que nous avions en Jésus-Christ. Eh bien, imaginez-vous maintenant que cette grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, elle apporte et elle produit un changement en nous. Alors, je ne vous apprends rien. Hein, et si je vous l'apprends, je vous invite à aller voir un ancien à la fin du culte. J'ai en effet un ami très cher et très proche que j'ai connu il y a 13 ans maintenant. Alors, il avait une vie parfaite de disciple, de toute façon. Certes, il priait peu en public, mais il avait une vie de piété, des bonnes connaissances des Écritures. Et il faisait tout ce qu'on attendait de lui, absolument tout. Mais c'est seulement en 2017 que tout a basculé, un mois avant son mariage. On lui a demandé de diriger une colo chrétienne. Alors ce fut pour lui une terrible déchirure, parce qu'il savait très bien au fond de lui qu'il n'était pas à Christ. Il avait au fond de lui envie de le dire et de le confesser. Mais Dieu, il avait prévu de le dire à sa femme après le mariage. Mais Dieu, heureusement, a toujours un plan, et dans sa sagesse, il a fait en sorte de provoquer sa confession. Donc le lendemain matin, quand on lui demandait de diriger cette colo, il est venu me trouver avec une amie à nous et il nous a fait asseoir dans un bureau. Sa fiancée était en pleurs au téléphone et là, il nous dit qu'il n'est pas chrétien. Après quelques instants de discussion, nous lui avons dit de prier pour demander pardon à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là précis que sa vie a changé. J'ai vu mon ami se transformer en profondeur, en seulement quelques mois. Il rayonnait, il avait même changé physiquement. Aujourd'hui, c'est un père de famille comblé et qui est dévoué et honnête disciple du Seigneur. J'ai donc le privilège d'être le témoin du changement provoqué par l'œuvre de la grâce de Dieu en Christ. Il en va de même pour nous. Nous voyons, en regardant derrière dans nos vies, combien Christ nous a changés. Là, ce n'est qu'un changement chez un homme, selon ce que je vous raconte. Mais nous allons voir qu'il y a un changement universel, que ce changement est universel, et surtout qu'il a d'autres implications. Je vous propose donc de lire Éphésiens 2, versets 11 à 22. Alors effectivement, c'est peut-être pas la même traduction, mais vous allez retrouver les mêmes choses. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. En lisant ce merveilleux texte, nous voyons, déjà dans ce que dit Paul, qu'il y a une structure qui se dégage. Elle fait écho aux 10 premiers versets, c'est la comparaison entre le autrefois et le maintenant. Je vous propose, par le texte, de nous émerveiller du changement qui se passe en nous au travers trois aspects de nos vies. Premièrement, transformés par Christ, unifiés dans la paix et habités par l'Esprit. Et nous verrons qu'à chaque fois, nous pouvons tirer une application concrète pour l'Église universelle, mais aussi pour nos vies de disciples de Christ. Premier point, transformés par Christ. Tout d'abord, voyons ce que dit Paul sur la transformation apportée par Christ en ce qui concerne les juifs et les non-juifs. Qu'est-ce que cela change ? Rappelons-nous que cette lettre est destinée aux Éphésiens, peuple d'origine grecque, et qui n'a que très peu connaissance, voire pas du tout, de la loi juive. Il commence ce passage en disant « c'est pourquoi ». Toujours très important, ces petits mots chez Paul. « C'est pourquoi ». Il veut faire le lien, ici, avec les versets précédents, qui parle de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ et qui nous donne une nouvelle identité. C'est déjà ce que nous avions vu dans le premier chapitre. Il utilise ce terme pour expliquer ce qui... que ce qui suit, pardon, est une raison de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et que cela découle d'une grâce infinie. En effet, autrefois, il y avait une séparation entre juifs et non-juifs, une séparation horizontale, déjà, entre les peuples, d'un peuple à l'autre, par la culture. La loi elle-même, par la culture, une séparation par la loi aussi, qui n'était pas la même, et aussi par des murailles. En effet, jusque dans le temple, on pouvait trouver un mur d'enceinte qui séparait les juifs et les non-juifs. Il y a aussi une séparation verticale, car ces non-juifs n'ont pas accès à Dieu, ne connaissent pas la loi divine, et n'ont donc aucun espoir de rachat. C'est une séparation spirituelle, car même la loi de Moïse est parfois appelée la clôture, car elle protège des influences païennes. Il fallait même faire face à une discrimination, et presque de la moquerie de la part des juifs, qui étaient circoncis dans leur corps par la main de l'homme, c'est ce que dit Paul, mais peut-être pas dans leur cœur. Les juifs appelaient les non-juifs incirconcis pour souligner la différence entre eux et rappeler que c'est les juifs qui portaient la marque de l'alliance dans leur corps. Nous voyons donc un premier obstacle à surmonter. Et Christ est venu surmonter cet obstacle, voire le détruire. Lorsque nous reprenons les 10 premiers versets, nous voyons que le point culminant de ces 10 premiers versets, c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes. Cet obstacle, il l'a surmonté en le payant de son sang. Nous le voyons au verset 13, Paul commence sa phrase par « mais maintenant ». Il veut souligner l'importance du changement. Avant, aucun espoir n'était permis, mais maintenant, vous avez accès auprès du Père par le sang de Jésus. La réconciliation est actée. Et ceux qui étaient loin, parlez ici des non-juifs, sont maintenant devenus proches. C'est une autre manière de dire qu'ils sont adoptés, que leur nature a changé. De la même manière, nous aussi, en tant que non-juifs de naissance, nous faisons partie de ce peuple qui était loin et qui s'est rapproché du Père par le sang de Christ, qui nous a donné un accès direct au trône de la grâce. Alors, première question sur ce premier point. Vous sentez-vous transformé par Christ ? Certes, nous avons changé de nature et nous sommes transformés par la grâce en disciples de Christ. Mais dans cette vie de disciple, reflétons-nous toujours cette grâce ? La sanctification est une longue course, de l'endurance. Et cette endurance a pour arrivée la mort physique ou le retour de Christ. Nous ne cesserons jamais de courir jusqu'au bout, jusqu'au but, comme dit Paul. Concrètement, je demande régulièrement à mes frères et sœurs, qui sont les plus proches, leur avis sur ma santé spirituelle. Je demande à Dieu, dans mes prières, de m'éclairer sur ce que je dois changer. Demandez à vos frères et sœurs comment ils vous trouvent sur tel ou tel point, sur tel ou tel aspect de votre vie de disciple. La réponse ne peut que vous édifier, même si elle est désagréable à entendre parfois. Faire cet effort-là, c'est faire avancer le royaume de Christ au sein même de son église locale. Car si son église locale ne progresse pas, le royaume de Dieu ne progressera pas non plus à l'extérieur de ses murs. Deuxième point, unifier dans la paix. La réconciliation entre juifs et non-juifs est apportée par Christ, mais c'est aussi une réconciliation de ces deux peuples avec Dieu. La réconciliation aboutit à la paix. Christ est notre paix. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus ni juifs ni de non-juifs, mais simplement des disciples. Par cette réconciliation, la paix et l'amour de Christ dans la paix et l'amour de Christ, un seul homme a vu le jour dans cette réconciliation. Un seul groupe est né. La loi et ses règles sont abattues car elles n'ont plus de raison d'être. La clôture est enlevée. La séparation a disparu. Il n'y a plus de raison de se protéger du non-juif puisque les deux, juifs et non-juifs, ne forment qu'un seul groupe. Les juifs n'ont pas été intégrés aux non-juifs ou les non-juifs intégrés aux juifs, mais il y a bien un seul groupe nouveau né de l'union des deux par le sang de Christ. Il a créé ce groupe en lui-même et cela nous rappelle la nouvelle création que l'on voit au verset 10 du même chapitre. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes de nouvelles créatures. La haine qui existait entre les deux peuples n'existe plus et la réconciliation était à la fois horizontale et verticale. En effet, juifs et non-juifs ont un accès permanent auprès du Père par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de groupe qui a un accès plus privilégié que l'autre, comme une sorte d'accès VIP ou de ticket fast-pass, pour ceux qui fréquentent les parcs d'attraction, car le même esprit a été donné à tous. Tous ne forment qu'un seul nouveau groupe en Christ. Alors, deuxième question, sur ce deuxième point. Considérons-nous les autres comme appartenant au même groupe? Je ne parle pas des non-chrétiens, comme je parle ici dans le texte des non-juifs. En effet, il y a toujours deux groupes, ceux qui croient en la bonne nouvelle de Christ et ceux qui n'y croient pas. Cette distinction n'est pas faite par la loi, ou le fait que Dieu a choisi un seul peuple pour le représenter, mais elle est faite par les hommes. En effet, Dieu a donné sa grâce à tous ceux qui veulent bien la recevoir, juifs comme non-juifs. Que vous soyez juif ou de n'importe quel autre peuple, vous avez accès à la grâce. Tout dépend de la personne qui veut la recevoir ou non. Lorsque je vous pose la question de savoir si nous considérons les autres comme appartenant au même groupe, je parle bien sûr des disciples. Je ne parle pas du disciple qui est assis à côté de vous, je parle de tous les disciples. Le disciple qui vit à l'autre bout du monde, est-ce que je le considère autant que celui qui est de ma propre culture? Et même un non-disciple, ne dois-je pas le considérer comme mon frère? Dans l'Église, est-ce que je n'ai pas tendance à mettre moi-même des barrières? Mais en plus, à mettre des barrières que Dieu a détruites. Pour ma part, oui. Je dois le confesser, considérer comme l'autre comme soi-même n'est pas toujours facile. En tout cas, ça ne l'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi je prends de plus en plus l'habitude de voir mon prochain comme si je me voyais moi-même, comme si je le regardais au travers des yeux de Christ. Si vous êtes vous aussi dans cette difficulté, comme moi, je vous encourage à faire de même. Et je vous assure que ça change la vision des choses. Troisième point, habiter par l'esprit. Nous sommes maintenant habités par l'Esprit. Puisque nous avons tous accès auprès du Père par lui, cet Esprit, c'est bien que nous ne formons qu'un seul groupe et que cet Esprit est en nous. Et parce que nous sommes transformés par Christ et unifiés dans la paix, notre statut change considérablement. Lorsque je vous ai parlé dans le premier chapitre, j'ai axé sur mon message sur le changement d'identité. Paul le réaffirme ici, dans le deuxième chapitre, en disant que nous ne sommes plus des étrangers. On n'est plus des étrangers du royaume, mais au contraire des concitoyens des saints. Nous sommes tous de la même famille, et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle de Dieu lui-même. Nous sommes adoptés, membres d'un nouveau royaume, citoyens du ciel. Et justement, nous voyons une progression dans ce que dit Paul. Nous passons du statut d'étranger à celui de citoyen, et de celui de citoyen à membre de la famille. De plus, cette famille se construit à l'image de Christ, sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui étaient les premiers membres adoptés de la famille de Christ. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire de ce fondement. C'est parce qu'il est venu lui-même se donner sur terre que cette famille a été créée en réunissant deux groupes pour n'en faire qu'un seul en lui-même. Et dans cette famille, la transformation continue puisque nous sommes un édifice accueillant le Saint-Esprit. Nous sommes donc spirituellement des bâtisses appelées temples. Matériellement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, à l'image, par exemple, si on veut reprendre une image, de la nuée qui flottait au-dessus du temple pour signaler la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem. Pour dire que Dieu était à l'intérieur. Nous sommes un nouvel édifice spirituel et corporel. Et c'est bien en Christ que nous tous nous sommes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Troisième question. Entretenons-nous suffisamment correctement le temple du Saint-Esprit? Notre corps étant une habitation terrestre de l'Esprit de Dieu, nous devons en prendre soin, physiquement bien sûr, mais encore plus spirituellement. Sommes-nous sensibles à tout ce qui peut corrompre le temple? Sommes-nous encore émerveillés de nous dire que Dieu habite en nous? Et notre église locale est-elle une communauté temple? Nous devons sans cesse être vigilants pour ne pas nous laisser corrompre par les perversions du monde. Un chrétien n'est pas fait pour vivre seul. Il finira par succomber aux désirs du monde et de sa chair. De la même manière que Paul reprend l'image du corps humain dans d'autres lettres pour parler du corps de Christ avec ses différents membres, nous ne pouvons pas imaginer devoir se promener un œil tout seul, un pied ou un foie ou une autre partie du corps qui arriverait sans le reste. Un chrétien n'est pas fait pour vivre seul. Je ne parle pas d'habiter seul, mais également d'être spirituellement seul. C'est le plus important. Pour qu'un chrétien ne soit pas seul, il faut d'abord que nous considérions l'autre comme nous-mêmes, afin d'aller prendre des nouvelles, de prier et de partager avec les autres membres de notre communauté temple. Beaucoup le font et vont voir les autres. Moi, je ne le fais pas assez. Ou en tout cas, j'ai tendance à choisir les personnes vers qui je vais. Et je le confesse également. Je vous encourage donc à prendre soin les uns des autres, car nous tous sommes le même temple du Saint-Esprit de Dieu. Pour conclure, je vous encourage à régulièrement observer et être émerveillé par la transformation que Christ a opérée en chacun d'entre vous. Il a profondément changé mon meilleur ami pour en faire un vrai disciple. Il m'a profondément changé pour faire de moi un disciple qui se tient devant vous aujourd'hui. Et lorsque je me surprends à imaginer ma vie sans Christ, je suis effrayé. Effrayé et accablé par tant de peines et de misères qui auraient pu m'arriver. Et surtout, effrayé de ne pas connaître la joie de recevoir la grâce, l'amour, le pardon, la paix de Dieu en Christ. Souvenez-vous que nous sommes transformés par Christ, unifiés dans la paix et habités par l'Esprit. Soyez donc émerveillés pour tous ces changements que Dieu a opérés en vous et soyez émerveillés de votre communauté temple qui, au-delà de ces murs, fera briller l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Prions. Je vous propose de prier. Père éternel, que dire de plus si ce n'est merci qui est un si petit mot qui n'exprime pas entièrement la gratitude, Seigneur, qu'on veut t'exprimer pour être venu nous chercher, nous avoir adoptés, réunis ces deux peuples, Seigneur, et puis venir habiter en nous. Merci infiniment pour tout ça. Aide-nous aussi à voir quel changement tu as produit à nous et à être émerveillés de se souvenir que le Dieu Tout-Puissant de l'univers m'a choisi pour habiter en moi, que chacun d'entre nous ait cela à l'Esprit Père. Amen.